I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu avec des acteurs majeurs du monde du tennis. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un maximum d'étoiles et à laisser des commentaires. Aujourd'hui, un jeune joueur qui est à l'aube de sa carrière, il fait partie de la Next Gen, il a 21 ans, et il aime autant ouais. Le tennis que les mots, ouais. Comme vous pouvez l'entendre.
Tous les soirs, c'est le même délire, je suis solo dans mon salon, j'écris des rimes toute la nuit en espérant que ma vie s'allonge. Dans le noir, mon esprit navigue pas de lueur, je suis perdu dans l'ombre, souvent je pars à la dérive, je rêve de m'évader de ce monde, j'écris ce texte, alors que je devrais aller dormir. Ouais.
On reçoit aujourd'hui Corentin Moutet. Salut Corentin.
Salut.
J'ai pas dit de bêtises.
Aucune bêtise pour le moment.
Meilleur classement 70.
Ça, je sais pas.
Je sais pas. D'accord. Je crois que c'était en début d'année, avant c'est le Covid. Possible. Il me semble. Comment vas-tu déjà pour commencer et comment t'as vécu ton confinement toi?
Bah moi, je vais au top. Hein. Pour le moment, le tennis a repris. Il y a un mois et quelques pour l'entraînement. Donc pendant le confinement, moi, j'ai pas fait grand chose au niveau sportif. Parce que bah déjà j'avais pas le droit, tout était fermé et que c'était compliqué et puis moi j'avais besoin de faire une coupure même dans la tête. Je fais du tennis depuis que j'ai 3 ans donc ça m'a fait du bien de couper un peu comme ça, de vraiment décrocher du tennis.
D'accord, donc t'as pas touché la raquette du tout, tu t'es entretenu un peu physiquement, t'as pu ou même pas, ou t'as décidé vraiment de faire une coupure totale et...
J'ai fait un autre chose. Peu d'entretien physique, mais pas énorme. Moi, j'avais vraiment envie, cette volonté de pouvoir vivre une vie et pouvoir me retrouver, réussir à trouver une identité sans le tennis, en me détachant du tennis, quand même continuer à pouvoir vivre. En fait, c'est un challenge un peu pour moi de laisser de côté ce que je fais depuis toute ma vie et voir si je peux quand même sans ça réussir à être heureux, à vivre une vie, quoi.
Et c'est une bonne question. Et alors, t'as réussi?
Ouais, j'ai réussi. J'ai même plus que réussi.
C'est vrai?
Ouais, c'était vraiment cool. Je regrette rien. Et c'est vraiment super de pouvoir... J'ai pas le mot de pouvoir... vivre à travers autre chose que l'image que j'ai extérieure et que même ce qui est mon métier et ce qui est mon identité... Enfin, ce que j'ai envie que...
Parce que tu as l'impression que c'était presque une chose que tu avais besoin de te prouver à toi, c'est ce que tu dis en fait.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu de me prouver que même si le tennis a la première place dans ma vie, me prouver qu'il n'y a pas que ça dans la vie et qu'il y a plein d'autres belles choses, m'ouvrir un peu à autre chose que de rester dans mon coin, ma balle jaune, tout ça. C'était vraiment un défi.
Et donc justement, alors, c'est quoi ces autres choses que tu aurais pu découvrir en rangeant cette raquette et sans y penser, sans plus y toucher?
Déjà, un peu se retrouver seul, parce que moi, j'ai fait le confinement chez moi tout seul. Donc, un peu se retrouver seul, se poser des questions autres sur la vie, sur soi-même. Même faire un point un peu, faire un 2 mois où je me suis retrouvé dans mon appart, seul, en face de moi-même. Donc voilà, il n'y avait pas de... entre guillemets, de fuite possible pour me retrouver avec moi. Donc, c'était vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup ce truc un peu introspectif de rester dans sa chambre, les lumières éteintes et de rien faire, un peu juste laisser les idées aller. Donc, j'ai pu faire ça pendant 2 mois, même un peu plus. Et moi, j'adore.
D'accord. T'as pas trouvé ça trop long et donc, t'en as profité pour faire d'autres choses comme la musique? Ou alors la musique, c'est un truc que tu fais déjà depuis longtemps, parce que j'aimerais justement faire la transition là-dessus. J'ai écouté quelques-uns de tes titres et c'est un truc que tu nourris depuis longtemps ou c'est tout frais, ou c'est justement un peu cette période de confinement qui t'a fait prendre aussi conscience de certaines choses par rapport à ça?
Ouais, Non, en fait, le truc du confinement, en fait, moi, j'ai jamais voulu. J'écris depuis assez longtemps, mais j'ai jamais voulu mélanger les deux, le tennis et ce côté hors tennis, quoi que ce soit. Là, on parle de la musique, mais pour toutes les autres choses, j'aime pas mélanger la personne que je suis en dehors du terrain et sur le terrain. Et en fait, c'était assez dur hors confinement, quand les tournois ont lieu, quand le tour a lieu, de sortir de la musique comme ça entre deux matchs. Forcément, l'interprétation des gens va être compliquée, parce que je parle de choses qui n'ont aucun rapport avec le tennis, souvent dans mes musiques, qui ont un rapport avec ce que n'importe qui peut ressentir, les émotions de chacun. Donc, il n'y a aucun lien en fait entre ma musique et le tennis, et j'ai pas envie qu'il y en ait, parce que derrière, si on regarde des paroles ou on écoute des musiques que je fais, forcément, on va pas comprendre de lien. On va se dire, mais attends, il est comme ça sur le terrain. Là, il parle de ça. Il n'y a pas de concordance, en fait. Ça se rejoint pas.
Ouais,
Et le fait, en fait, qu'il y ait le confinement m'a permis de me détacher de mon image tennistique un peu. Qu'on oublie un petit peu que j'étais joueur de tennis, pour les gens qui me connaissent. Et que, du coup, ça me permette de m'exprimer en tant que personne, quoi. En tant que personne sans identité, sans étiquette de joueur de tennis.
mais donc tu as toujours été passionné de musique, de rap plus particulièrement, et t'as toujours, enfin, tu dis tu écris hein, finalement depuis longtemps, mais après ce passage à l'acte. Tu l'as mûri à quel moment justement?
Bah, je savais qu'un jour ou l'autre j'allais sortir un truc, parce que c'est à un moment c'est frustrant. La musique, c'est fait pour partager, c'est fait pour communiquer avec les gens. Donc même si j'écris beaucoup sur moi et que c'est aussi une forme de thérapie, il y a un moment j'avais envie de partager aussi, parce que peut-être que d'autres personnes vont se ressentir dans la musique, d'autres vont pas aimer, mais les personnes qui vont se ressentir dedans, je trouve que c'est sympa de pouvoir communiquer à travers ça, à travers la musique. Donc
T'as l'impression, enfin, moi j'ai écouté hein, quelques-uns de tes titres, donc tu as des choses à dire, est-ce que tu as besoin de les extérioriser? C'est pour toi une façon en fait de faire passer des messages à des proches hein, aussi, et c'est peut-être plus facile de cette manière que de pouvoir les dire justement en face à face ou pas du tout, c'est vraiment je sais pas, une sorte d'échappatoire pour toi et une façon enfin, aussi de t'exprimer. Il y a pas mal de colère parfois aussi, il y a plein de choses et je trouve qu'il y a quand même des parallèles malgré tout dans ta personnalité et sur le terrain et on y reviendra hein, parce que justement on va aussi parler de toi et de tennis bien évidemment. Mais ouais, c'est quoi cette, je sais pas, la volonté finalement de vouloir rapper toi?
Bah, en fait, moi, à la base, c'était pas vraiment le rap. Enfin, si, parce que c'est la musique un peu, comment dire, la musique que tout le monde écoute. Donc, j'écoutais ça avec mes potes depuis jeune. Mais moi, j'adore en fait la langue française et les gens qui, que ce soit des écrivains, même si je lis beaucoup moins, ou même des artistes qui s'expriment et qui utilisent la langue française en la tournant de façon différente, qui font des jolies phrases, des structures de phrases. Moi, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours fasciné, les personnes qui arrivaient à maîtriser ça. Moi j'ai en fait c'est la musique française avec des paroles quoi.
La poésie, c'est
La poésie
ça?
en fait. Ouais. Et moi je trouve que dans le rap, alors le rap a une image un peu gangster, un peu ouais aux yeux des gens, un peu gangster. Et moi je trouve que le rap justement quand on creuse un peu et qu'on s'intéresse, il y a des super jolis textes sur des super belles mélodies. Aujourd'hui quand on voit que la personne qui fait les instrumentales pour les meilleurs rappeurs, c'est un pianiste qui a fait le conservatoire, qui joue du classique. Enfin, je trouve que justement, le rap, c'est très riche et ça apporte plein de styles de musique en un style, en une catégorie. Et je trouve que du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est que tu peux très bien écrire un texte que sur du piano, ou tu peux très bien écrire un texte sur quelque chose avec plus de basse, ou sur du rock, ou sur n'importe quoi. Et c'est ça qui est bien, je trouve, dans le rap. C'est pour ça que moi, en fait, pour écrire, je me suis dit bah, que j'allais plus me coller à un style comme ça, parce que c'est plus, pour moi, on peut faire passer plus de messages de cette façon. Puis, j'ai pas de voix, enfin, je sais pas chanter, donc
D'accord. C'est des messages, enfin, c'est des messages, mais c'est aussi faire passer de l'émotion. Et
l'émotion.
c'est que tu as des choses que tu as envie aussi de dire, certainement, parce que sinon, tu les garderais pour toi. Et c'est aussi une manière, enfin, je sais pas, de les extérioriser, ces choses que tu as en toi, non?
Ouais, c'est un peu de tout, c'est un mélange de tout. Il y a, comme je disais, la thérapie, le fait de, comment je peux dire ça, le fait d'extérioriser un peu ce qu'on a à l'intérieur.
Parce que tu parles quand même de souffrance, enfin, tu vois, tu parles d'écorché, donc écorché vif, enfin, tu vois.
Ouais, je pense que moi, je suis un peu comme ça.
Ouais, je sais.
Ouais, et je trouve que, en fait, je pense que tout le monde est un peu comme ça, un côté un peu écorché, un côté plus joyeux. Et enfin, en tout cas, moi, c'est mon combat, et je pense que c'est le combat de pas mal de personnes d'essayer de faire basculer le plus souvent du côté joyeux, même si je pense qu'il ne faut pas renier ce côté un peu sombre, parce que il fait partie de nous et que moi, je l'aime bien aussi, ce côté-là. Ça apporte des émotions assez fortes, même si c'est des émotions un peu tristes, de souffrance, tout ça, c'est des émotions fortes. Et donc ouais, c'est pour se libérer. À la base, je l'ai pris comme ça. C'est l'écriture, je l'ai pris comme une thérapie d'extérioriser, comme une psychanalyse un peu.
Est-ce que tu as l'impression que c'est dans ces moments un peu sombres, justement, que tu écris le plus?
Ouais, c'est sûr, c'est certain. C'est certain, quand tout va bien, je me souviens, moi, quand je dormais au CNE, donc à la Fédération, je me souviens que la première année, quand j'étais trop heureux, bon, ça m'arrive plus, j'ai dû travailler sur moi pour changer ça, mais avant, quand j'étais trop heureux, je m'enfermais dans ma chambre et j'essayais de redevenir un peu triste parce que j'arrivais plus à écrire, parce que j'aimais pas en fait cette émotion de joie avant. C'est pas que j'étais dépressif, c'est juste que
tu cherchais la mélancolie, tu cherchais un peu le spleen.
Je me sentais mieux quand j'étais un peu mélancolique, plus inspiré, plus en contact avec les personnes, plus et du coup, le fait d'être trop joyeux, trop aimer la vie en fait, trop apprécier,
t'empêchait presque d'être créatif, quoi.
Ouais, ça m'empêchait un peu. Et c'était pendant longtemps, c'était un peu dur parce que derrière, quand j'arrive sur le terrain, au final, le mélange il se faisait parce que j'arrivais sur le terrain un peu triste, un peu sombre, et c'était dur de se motiver pour s'entraîner.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ont été surpris, tes proches?
Bah, mes proches...
Oui, ils savaient.
Ils ne savaient pas que je m'enfermais comme ça, mais c'est surtout que... Non, ils étaient un peu inquiets. Ils pensaient que j'étais pas dépressif, mais que j'étais triste, quoi, que je n'aimais pas ma vie, que tout ça. Alors, pour moi, la mélancolie, ce n'est pas du tout de la tristesse. Je ne sais plus qui disait ça, c'est Victor Hugo, je crois, qu'il disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et je trouve que cette phrase, elle est hyper juste parce que... Je ne sais plus si c'est Victor Hugo, mais je crois que c'est lui. Mais je la trouve hyper juste, la phrase, parce que c'est être créatif, je trouve, la mélancolie. C'est être créatif, effectivement, dans une ambiance un peu sombre quand même, un peu dark. Ouais. Mais ce n'est pas de la tristesse. C'est pas, j'ai pas envie de me suicider, rien de ça.
D'accord. Bon, tu nous rassures. Parfait, donc tout va bien. Bon, en tout cas, tu vas continuer. Tu as des ambitions derrière tout ça. Je m'arrête là après, justement, sur la musique, et on va parler de tennis. Il y a la suite parce que le circuit reprend. Et tu disais que tu ne voulais pas trop mélanger les deux.
Ouais, je ne veux pas mélanger. Je ne veux pas mélanger du tout. C'est pour ça que j'ai fait deux comptes, que ce soit sur Twitter ou Instagram. J'ai fait des comptes séparés pour vraiment séparer les deux. Et sinon, non, je vais sortir. Là, depuis le début du confinement, je travaille sur un EP. Et que je vais sortir dès que j'ai fini de tourner les clips.
D'accord, parfait. Bah, écoute, on te souhaite bonne chance pour cette carrière aussi. Et on va revenir au tennis avec l'UTS. Donc, tu as été rattrapé, on va dire. En tout cas, tu as remplacé Lucas, c'est ça, qui s'est blessé une nouvelle fois au coude. On a une pensée pour lui. Comment tu te sens? Parce que tu n'as pas touché la raquette pendant un moment. Donc, tu as eu le temps de t'entraîner, de reprendre, évidemment. Mais une bonne reprise?
Ouais, carrément.
Ouais.
En fait, moi, vu que j'avais pas joué pendant le confinement, je m'attendais à une reprise un peu dure. Franchement, on a bien fait les choses avec Laurent et mon entraîneur physique. On a repris petit à petit. On a quand même repris fort, je trouve, parce que j'ai fait du physique dès le premier jour. Et ça fait, ouais, maintenant un peu plus d'un mois que je m'entraîne. Et je me sens vraiment bien sur le terrain. J'ai eu un match compliqué contre Benoît où j'avais pas le rythme. En plus, les nouvelles règles, tout ça, j'avais un peu de mal, le rythme, mais même s'il a très bien joué, c'était juste une question de sensation. Mais il y a même des jours où on joue très bien et les sensations sont pas là pourtant. Et là, c'était le cas où je me disais, putain, ça va être dur quand même.
Le fait que tu n'aies pas joué pendant assez longtemps, c'est un truc justement qui te permet aujourd'hui, tu penses, d'être plus motivé. Enfin, le fait d'avoir coupé, ça donne justement un petit coup de boost.
Ouais, carrément, je me sens. C'était dur au début de retrouver une routine et un rythme de travail quotidien parce que j'étais pas habitué à avoir des heures, des heures d'entraînement, des choses à faire tous les jours, quotidiennement, des choses à répéter. J'avais perdu un peu l'habitude, donc ça c'était le plus dur, de me lever tous les jours pour aller à l'entraînement, même si j'avais envie d'y aller, c'était le fait d'y aller tous les jours. Aujourd'hui, c'est un kiff en fait. J'ai fait pendant 2 mois et demi, j'ai fait un peu le vide, j'ai fait autre chose et je me suis rendu compte que bah, enfin, je le savais déjà avant, mais j'arrive pas à avoir mes mots aujourd'hui. Ça m'a.
Ouais, non, ça t'a ouvert les yeux, c'est une prise de conscience sur le fait que tu adores le tennis au fond. Aussi.
Ouais, voilà, j'adore
Non,
le tennis
mais.
en fait. Moi, en fait, quand j'attendais qu'une chose, c'est de retourner sur un terrain, de jouer des matchs, de voyager, même de perdre des matchs, de perdre des points, de me retrouver dans une situation stressante et tout. C'est l'adrénaline que j'avais pas pendant 2 mois et demi. Et moi, c'est.
Ces émotions que tu n'as pas vécues et
Ah ouais.
qui sont parfois douloureuses, mais très bonnes à vivre, c'est ce que.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, mais tu as raison, parce que quand on est sur le circuit, moi, un petit parallèle, mais de temps en temps, enfin, je me suis trop blessé au bout d'un moment, mais tu sais, quand je me blessais, parfois je me disais, ça me fait du bien de couper. Et en fait, c'est vrai que cette reprise après, bah, tu es hyper motivé, tu as encore plus envie, tu te rends compte, je crois que c'est aussi une prise de conscience, enfin, justement, de tout l'amour que tu portes, justement, pour le
Ouais,
sport que
clairement.
tu pratiques depuis toujours.
Ouais, parce que ça devient un peu normal en fait. Tous les ans, tu fais les mêmes tournois, tu voyages, tu prends des points, t'en perds, tout ça, et ça devient un peu une routine. Et on se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a, je trouve. Et puis là, au-delà de la blessure que toi, tu as dû le vivre différemment, parce que la blessure, les autres continuent à jouer. Donc c'est frustrant quand même de voir les autres jouer sur le tour pendant que tu es blessé. Ça m'est arrivé aussi, et c'est vrai que c'est frustrant. Là, en confinement, personne jouait.
Ouais,
Donc,
c'était pour tout le monde pareil, t'as raison.
et c'est pour ça, je trouve que ouais, ça, de temps en temps, ça fait du bien de faire une pause pour se rendre compte des choses, que les choses elles sont belles. Mais comme je pense, la plupart des gens se sont rendus compte quand ils étaient enfermés que en fait, même de marcher dehors, c'était un luxe. Donc, je trouve que ça fait du bien de temps en temps d'avoir qu'on nous supprime cette chose qui nous tient à cœur pour lui donner un peu plus de valeur et qu'on se rende compte à nouveau que.
Ouais, après, est-ce que tu crois qu'il faut en arriver là pour se rendre compte que les choses sont belles, intéressantes,
Je ne sais pas
qu'on
si faut en
les
arriver,
aime?
mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de gens qui ne se seraient jamais rendu compte que marcher dehors, c'est un luxe. Et
Ouais, non,
qui
mais
vont
t'as
se
raison.
plaindre parce qu'il pleut ou je sais pas quoi. Mais en fait, pendant le confinement, même sous la flotte, on aurait tous aimé aller faire un footing ou.
On aurait tous aimé sortir, t'as raison.
Ouais.
Et on a parlé de, donc, niveau de jeu, t'es plutôt satisfait. Qu'est-ce que tu penses de ces règles? Assez radical quand même en termes de changement sur l'UTS, hein, c'est l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick. Est-ce que tu penses que c'est volontaire justement de leur part pour voir ce que l'on pourrait piocher finalement et moderniser le tennis actuel ou c'est vraiment de l'exhibition et du spectacle?
En vrai, je connais pas trop sa démarche vis-à-vis de ça, dans quelle optique il a fait ses règles. Moi, le truc que je peux dire, c'est mon point de vue en tant que joueur. En tant que joueur, je trouve que franchement, c'est cool. Alors, c'est pas mal critiqué. J'ai vu sur les réseaux, c'est pas mal critiqué. Je pense que quand on innove, c'est no normal que de toute façon qu'il y ait des gens pas contents et d'autres contents. Mais moi, je trouve ça bien dans le sens où aujourd'hui, il n'y a rien organisé, il n'y a pas de tournoi. Donc, il fait vivre des joueurs de tennis. Les gens qui ont envie de regarder du tennis, ils leur proposent quelque chose à regarder, du contenu. Après, les règles, au final, il n'y a pas de public. C'est super dur de rendre du tennis sympa à regarder, sans public, sans tout ça. Donc, je trouve que c'est fort et c'est courageux d'arriver avec une idée en disant on va faire ça, des règles comme ça, pas de public, tout ça. Je trouve ça hyper courageux de sa part d'organiser un truc comme ça.
Ouais, alors après, enfin moi je souscris à certaines choses, pas à tout. Et en tout cas, le fait qu'il y ait du tennis, je trouve ça génial. Permettre en tout cas, ben voilà, aux joueurs de pouvoir jouer dans des conditions quasi de compétition, c'est très bien pour une reprise. Après, je me disais justement par rapport à toi, qui peut parfois être caractériel sur le terrain, parfois, et justement l'assouplissement des règles du code de conduite. Est-ce que toi, tu penses qu'on devrait assouplir ces règles pour permettre aux joueurs de s'exprimer?
Moi, je suis
Et
pas
dans
trop.
quelle mesure?
Moi, pour moi, c'est compliqué. C'est comme. Pour moi, ce serait comme autoriser les drogues, autoriser les trucs comme ça. C'est-à-dire que dans certains cas, ça serait bien, mais il y aura des dépassements si jamais on fait ça.
Y aura
Si
des
jamais,
débordements.
il y aura des débordements, il y aura des choses qui vont. Alors, est-ce que ça fait partie du show? Je sais pas. Au foot, les joueurs, ils insultent les arbitres. Et au final, ça amène un public différent. Ça amène un public différent.
Donc, tu es
Aujourd'hui.
plutôt pour des règles assez drastiques, finalement,
Ah, pour ça, moi, le truc qui me dérange, c'est les amendes, en fait. Le code, il est ce qu'il est. Il y a des règles, il y a la loi. Aujourd'hui, si tu grilles un feu, tu perds des points. Il y a des règles.
Tu dois la respecter.
Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est des personnes qui font, moi je l'ai dit mille fois à l'ATP, ça je l'ai déjà dit mille fois aux personnes qui bossent à l'ATP, qu'ils décident de certaines règles pour nous et que derrière qu'on prenne un point de pénalité, un avertissement, tout ça, ok, de payer en plus que eux ils décident du montant équivalent à l'infraction qu'on a faite. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de règle en fait là-dessus. C'est-à-dire que tu peux casser une raquette, tu peux payer 10 000 euros, tu peux payer 15 000, 20 000, 30 000. Il n'y a pas vraiment de règle face à ça. Et c'est plus ça, moi, qui me dérange plutôt que le code de conduite. Le code de conduite, pour moi, il faut qu'il y ait des règles. On ne peut pas tout laisser faire.
Non, mais bien sûr. Mais après, c'était plus parce que, en fait, ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est que le tennis, d'une manière générale, est un peu trop aseptisé, que les joueurs sont finalement un peu tous les mêmes dans leur comportement et que c'est ce qui fait le manque de rayonnement et d'attractivité de notre sport. Et toi, c'est ce qui m'intéresse un peu, toi, tu es tout jeune, c'est ce que je disais, tu es à l'aube de ta carrière, tu as à peine 21 ans. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut le moderniser aujourd'hui, notre sport? Ou tu penses qu'en l'état, non, c'est pas vrai, ça, il peut être très attractif avec... Avec finalement le talent des joueurs.
Moi, je pense qu'il y a deux options. En fait, moi, je pense que c'est un système général qu'il faudrait changer. C'est dans ce cas-là une liberté totale, parce que au final, on parle d'assouplir le code de conduite, mais les gens, quand on casse une raquette, ils nous sifflent sur le terrain. Donc, ils n'ont pas forcément envie de voir ça. Alors, ça les fait marrer un peu, mais je veux dire, est-ce qu'on a envie de transformer le tennis en un sport où on vient voir des mecs casser des raquettes et les siffler et un sport comme ça?
Donc t'es quand même sur le devoir d'exemplarité quand même.
Je suis pas sur le tennis doit être un sport noble, doit être un sport élégant.
Non mais un athlète doit être exemplaire parce qu'il est suivi par beaucoup de jeunes et qu'il y a un rôle peut-être un peu éducatif derrière tout ça.
C'est pas vraiment ça, mais je pense que moi si je me mets dans la place d'un spectateur, si je vais voir un match de foot, c'est pour avoir des beaux buts. C'est pour voir des, si je vais en match de tennis, c'est pour voir des jolis points, des trucs comme ça.
Donc du beau tennis, mais pas forcément en fait des frasques de la part des joueurs.
Après, est-ce que ça aiderait les gens à comprendre, d'assouplir ça? Est-ce que ça aiderait les gens à comprendre plus les comportements de chacun? Parce qu'au final, quand on casse une raquette, nous, on n'a aucun intérêt à casser une raquette. Enfin, je dis nous. Bien sûr. Les gens qui cassent des raquettes, ils n'ont aucun intérêt à casser des raquettes parce que ça te fait une raquette en moins, ça te fait une amende, ça te fait plein de choses qui ne sont pas cool. Ça salit ton image et du coup en fait c'est plus les supporters qui devraient se poser la question de pourquoi tu casses la raquette et de c'est en fait je pense que moi le système, moi je m'y suis fait, le système il sera jamais parfait et je pense qu'il faut arrêter de chercher un système parfait. Moi c'est ça mon point de vue, c'est que
à un moment j'accepte en gros tel qu'il est t'es pas trop pour le changement. Finalement, là, dans ce que tu avances, j'ai plus le sentiment que les joueurs doivent s'adapter et qu'en jouant très bien au tennis, le tennis restera finalement très attractif.
Bah, moi, je dis ça parce que je suis joueur aussi en tant que spectateur. Je ne sais pas, c'est plus au spectateur, je pense, de prendre position là-dessus parce que moi, je ne regarde pas de tennis. Moi, je trouve ça trop long.
Donc, tu es pour les formats courts plutôt ou en tant que joueur, non, quand même pas. Parce que c'est intéressant.
En tant que joueur, non, mais après, qui fait vivre le tennis, c'est les spectateurs. Ouais. C'est si personne vient nous voir, ça va tuer le sport.
Mais tu dis, tu trouves ça trop long, toi, à regarder, mais finalement, en tant que joueur, tu préfères quand même les formats actuels. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu penses, les matchs Homérique épique et dont on se souvient, ce sont quand même des matchs globalement très longs.
Tu gagnes un 8-6 au 5e, un truc comme ça, c'est des souvenirs qui restent à jamais dans ta vie. Mais ça serait assez égoïste, je pense, pour nous joueurs de dire non, mais attends, on veut jouer 6 heures, c'est ça qui nous donne des souvenirs incroyables. À un moment, oui, c'est les joueurs qui font que le tennis est ce qu'il est, mais c'est les supporters aussi qui nous font vivre.
Après, ouais, alors c'est intéressant parce que Gilles Simon, lui, dit qu'il faut aussi, d'une certaine manière, éduquer le public et ne pas céder à tous ses caprices.
Non, c'est possible. Mais en vrai, moi, je réfléchis jamais à cette question parce que j'ai pas vraiment de point de vue, en fait. J'ai déjà fait le tour de la question parce qu'il y a des discussions là-dessus, on a plein sur le tour. Et en fait, j'ai pas vraiment de point de vue. Moi, je suis plus dans le... Moi, j'adore ce sport. Mettez-moi les règles que vous voulez. C'est comme quand... Enfin, je sais pas, moi, je suis joueur. mettez-moi les règles. Si j'accepte, je vais jouer. Si j'accepte pas, bah, je ferai autre chose. D'accord. Et puis voilà. À un moment, faites votre truc. Le système, il est ce qu'il est. Il sera jamais parfait. Le monde, il sera jamais parfait. À un moment, en fait, la seule manière pour nous, c'est d'accepter les inégalités, les imperfections. Parce que, ouais. Tu vois, même nous, on n'est pas parfait. Enfin, personne.
Et quand, juste pour faire une analogie entre ta musique et ton comportement, parfois, ce qui te rend le plus fou, c'est l'injustice.
Ouais, mais au final, petit à petit, avec le temps, même si je suis pas vieux, hein, mais avec le temps, je me dis, je me rends compte en fait que l'injustice, elle est incontrôlable. Elle est forcément, il y aura toujours une injustice quelque part. Il y aura toujours une injustice, il y aura toujours une inégalité. Après, c'est pas pour ça qu'il faut pas se battre contre, mais faut quand même garder au fond de soi un peu l'acceptation, se dire, ben, de toute façon, ça sera comme ça. Ça sera comme ça, on peut pas ouais. le changer. On peut pas rendre un système parfait. Et je pense que ça serait chiant un système parfait aussi, parce que le monsieur parfait, il est énervant, quoi. Il est pas marrant. C'est, ce qui est marrant, justement, c'est les défauts aussi. Les défauts, les qualités.
C'est ce que ma femme me dit. Les défauts sont charmants. Tes défauts sont charmants. Enfin bon, passons. Et dis-moi, donc, le tennis officiel devrait reprendre bientôt. Alors, je dis « devrait », je parle au conditionnel. Parce que tu as peut-être suivi là, ce qui s'est passé sur l'Adria Tour avec quelques joueurs finalement qui ont été contaminés. Tu n'as pas l'impression qu'ils ont fait n'importe quoi avec autant de public, avec finalement des embrassades, avec faire jouer, et c'était très bien, mais faire un Kids Day, faire jouer les ramasseurs de balles. Enfin, cette grande fête, comme une reprise, c'était parfait visuellement. Mais en revanche, en termes de gestes barrières et de respect justement des règles sanitaires, on n'y était pas vraiment. Et finalement, est-ce que tu n'as pas peur que ça puisse avoir une influence sur la reprise? C'est pour ça que je parlais au conditionnel.
Ouais, sur la reprise, je ne sais pas du tout parce qu'on subit un peu, les infos en les découvrant dans la presse, hein, comme tout le monde, même si on est joueur.
Mais t'as pas été surpris, toi, justement, de voir l'Adria Tour se jouer?
En fait, avant cette histoire-là, je savais pas qu'il avait lieu. Enfin, tu sais, moi, comme je disais juste avant, je regarde du tennis quand j'ai un match à jouer et que je regarde des vidéos de mon adversaire. Sinon, je suis aucun truc de sport, de trucs comme ça. Je suis pas très sport. Je regarde pas de sport, donc j'avais aucune info là-dessus. Je savais pas du tout que ça avait lieu. Moi, je savais même pas que Djoko avait organisé un truc. Je l'ai appris justement hier, je crois. C'est hier que c'est sorti. Ou ce matin, je ne sais plus.
Ouais.
Je ne savais pas, moi, qu'ils avaient joué là-bas. Je ne savais pas qu'ils jouaient.
Dimitrov, donc, était contrôlé.
Ouais, ça, j'ai vu. Non, mais après, à la suite de ces annonces, ça, j'ai découvert, en gros, qu'ils avaient fait un tournoi avec du public, avec tout ça.
Tout le monde prend quand même beaucoup de précautions. On y va avec beaucoup de prudence. Et est-ce qu'ils n'ont pas, d'une certaine manière, un peu. Tu vois, tout flingué.
Ouais, c'était peut-être un peu tôt. Après, les gens étaient conscients de tout ça, tout le monde qui arrivait, les gens avaient conscience de ça, des gestes barrières, des trucs comme ça.
J'entends ce que tu dis, mais après, de la part, je trouve, moi, de la part de l'organisateur.
C'est Djoko qui a organisé ?
Tout à fait. Non. Tu vois, c'était un peu aller vite en besogne quand même.
Ouais, c'est possible.
On regarde encore une fois de la situation actuelle.
Ouais, c'est sûr. Après, je sais. Mais en fait, moi, je suis pas. Ils étaient en zone. Ils étaient déconfinés, eux.
Oui,
ils ont dû avoir l'autorisation.
Plus que déconfinés, j'ai envie de te dire.
Ouais. Non, mais ils ont eu l'autorisation du pays, non? Enfin,
oui,
j'imagine.
Oui, bien sûr, ils ont toutes les autorisations. Donc, c'était complètement.
Un moment, Djoko, il a eu une idée. Les gens l'ont accepté. Je pense que c'est pareil. Aujourd'hui, l'US, s'il pouvait avoir du monde, est-ce qu'il ne le ferait pas?
Non, mais c'est sûr. Mais oui. Après, est-ce qu'il ne le ferait pas? Enfin, tu vois, il y a un temps pour tout.
Mais ouais. Non, je sais, mais aujourd'hui, j'en sais rien. Hein, mais...
J'espère juste que tu vois, ça ne va pas mettre encore une fois ce que je dis en péril. Enfin, voilà, la reprise du circuit officiel.
Après, je ne pense, pense pas qu'ils suspendent le tour parce que des personnes se sont vues et sont positives au Covid. Aujourd'hui, ils veulent faire l'US Open sans faire de qualif. Et ils veulent faire l'US Open sans peut-être des Argentins qui ne peuvent pas s'entraîner. Donc, au final, ils ne pensent pas à tout le monde. Je vois pas pourquoi. Et on
parce qu'il y a un manque d'égalité là et que justement c'est cette limite de leur part d'organiser l'US Open notamment sans les qualifs avec un tableau de double réduit. Et,
tu dis, moi, je trouve que
un certain nombre de joueurs.
Ce qui est compliqué, je trouve que c'est bien parce que de toute façon, moi j'ai jamais de vie blanc ou noir. C'est, j'ai toujours, de toute façon, c'est jamais soit blanc soit noir. Mais Pour moi, au point de vue tennistique, il y a des points positifs à qu'il ait lieu, même s'il n'y a pas de qualif, parce que ça va générer de l'argent, ça va permettre d'organiser des challengers, ça va permettre de prendre de l'argent pour organiser d'autres choses qui sans ça seraient perdues, et peut-être que l'année prochaine, ou j'en sais rien, ils auront moins de fonds pour justement promouvoir le tennis. Donc il y a un côté bien du fait que, ok, les joueurs du top 100 vont gagner de l'argent, mais en fait, si jamais on regarde au-dessus, c'est la fédération qui va gagner de l'argent, c'est l'ATP, l'ITF, tout ça, et cet argent-là, il va permettre justement de le redistribuer aux autres en organisant des tournois. Mais d'un autre côté, moi, mon autre avis est que pour moi, si tout le monde ne peut pas jouer, bah, on ne joue pas. On ne va pas jouer un tournoi, gagner de l'argent, des points, si d'autres ne peuvent pas jouer, ça crée encore plus l'écart en fait.
Ouais, ça peut créer plus d'écarts et des conflits. Toi, aujourd'hui, est-ce que quand tu te projettes sur le calendrier et ta programmation, tu penses devoir faire un choix entre l'US et Roland, par exemple, ou non, non, pas du tout, il y aura Roland
Non,
quoi
non,
qu'il
non,
arrive et l'US avant?
moi je vais jouer les deux. Je pense que déjà je suis jamais allé en deuxième semaine de Grand Chelem, donc je suis pas dans un cas de Nadal qui a gagné Roland, qui a gagné l'US, qui va devoir défendre les deux en 3 semaines et qui probablement aura
Tu
pas
penses
beaucoup
que
de
ces
temps.
gars-là vont devoir justement faire un choix?
Je pense qu'ils vont jouer les deux. Moi je pense que
D'accord.
c'est dur de quand même de faire une croix sur un grand chelem, et je pense que si jamais il a lieu, il sera mandatory, donc c'est même obligatoire de le jouer, je pense, en tant que joueur, si jamais on est éligible.
Toi, en tout cas, sur la
Moi, je vais
suite.
jouer les deux. Moi, je sais pas si je vais entrer dans les premiers tournois parce que c'est des tableaux plus petits du coup, mais moi, je vais jouer. Si je suis prêt, je jouerai.
D'accord. On revient, j'avais envie de te parler de ta jeunesse. Alors, une jeunesse quand même assez proche, puisque j'avais envie de te parler du passage junior-senior. Tu as été très fort dans toutes les catégories jeunes, globalement, enfin, champion de France à chaque fois, enfin, et champion d'Europe ou finaliste, hein, si je ne dis pas trop de bêtises en l'avançant de cette manière. Comment tu l'as vécu, toi, ce passage junior-senior? Enfin, est-ce que tu t'es mis de la pression, justement, ou assez sereinement, où tu t'es dit avec une certaine confiance, ça va passer et on verra bien.
Bah, moi, j'ai eu la chance et la malchance de me blesser justement à ce moment-là, à 15 ans, je crois. Je me suis blessé pendant 6 mois. Bah, d'ailleurs, t'étais DTN, je crois, à cette époque-là. Pendant Roland Junior, parce que j'avais dû rendre ma wildcard, je crois. Donc voilà, j'ai eu cette chance en fait de me blesser et de du coup perdre tous mes points de junior. Du coup, bah, soit je redémarrais en junior à 16 ans, soit je redémarrais à zéro en junior, soit je me lançais sur le circuit. Et à ce moment-là, j'étais avec Nico Coutelot, que tu connais bien, et qui m'a tout de suite mis en confiance. Lui, il a une énergie de dingue, confiance en lui, il avait confiance en moi. Il était mature dans son discours. Il m'a pas pris comme un enfant. Il m'a pris comme un joueur de tennis. Il m'a respecté. Et du coup, quand on est parti en futur, sur les premiers futurs, je me souviens, directement, il m'a fait comprendre que j'avais ma place, quoi. Que
Donc,
allez,
tu as
on y
bien
va.
joué rapidement, c'est ce que tu veux dire. Le passage, cette transition s'est faite
Ça s'est fait rapidement.
assez facilement.
Ouais, facilement parce que j'ai pas eu de choix en fait de mixer. J'ai pas eu le
Oui, c'est
choix.
parce que tu as gagné des matchs aussi tout de suite. Enfin,
J'ai
parce que
gagné aussi.
tu peux ne pas avoir le choix, mais quand tu te lances, quand tu ne gagnes pas de match tout de suite, ça ne te met pas forcément en confiance. Or, toi, enfin, rapidement, tu
Même.
as
Mais ce qui
senti
est
que tu
bien
étais au
aussi,
niveau.
ce qui est bien à l'ATP, et enfin quand tu commences à jouer et prendre des points ATP, c'est que tu as ce truc de classement jusqu'au premier. Et du coup, tu sais le chemin qui te reste à parcourir vers le sommet. Alors qu'en junior, tu as beau être deuxième, troisième junior, tu as tout à refaire à partir de 18 ans.
C'est
Et
sûr.
moi, en fait, ce qui m'excitait là-dedans, c'est que je me souviens, je prends mon premier point ATP, je sors des qualifs, je prends mon premier point ATP. Et la semaine d'après, ou 2 semaines après, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est 2 semaines après pour les futurs, tu as ton nom dans le classement mondial, quoi. Et que la semaine d'après, tu fais quart, tu prends 3 points, tu prends 200 places, et c'est excitant, quoi. C'est
Parce que
excitant au début.
en France, on a tendance à dire que cette transition est délicate pour nos joueurs. Toi, tu dis ne pas l'avoir ressenti de cette manière, mais est-ce que quand même tu as ressenti de la pression, je sais pas, une certaine attente de la part, je sais pas, des médias, de tes proches, du public? Non,
Non,
du tout.
en fait, non, pas du tout. Mais en fait, ce qui a été dur, c'est que je me suis éloigné des juniors, en fait, en jouant que des futurs quasiment. Et que, en fait, quand tu reviens en junior, là, j'ai ressenti la pression. Là, j'ai ressenti la pression parce que j'avais un classement ATP, les autres n'en avaient pas, la plupart, des mecs de mon âge. Et du coup, quand tu les joues, tu as une forme de pression de. Quand tu es jeune, hein, tu te dis, bah attends, moi, j'ai fait demi en futur, je peux pas perdre contre lui.
Ouais.
Alors que si, je pouvais perdre contre eux. Et du coup, il y avait une forme d'attente aussi de la part des gens, des spectateurs, de il a 15 ans, il est temps mondial, qu'est-ce qu'il va faire en junior à Roland? Alors que les autres joueurs que je jouais, c'est juste qu'ils jouaient des juniors et pas de futurs, mais ils jouaient aussi bien, ils avaient le même classement que moi à l'ATP s'ils avaient choisi de l'option des futurs. Donc c'était très dur, je trouve, vis-à-vis des spectateurs, de je sais
Ouais.
plus, j'ai dû prendre mon premier point à 16 ans, un truc comme ça, ou 15 ans. Et du coup, très vite, ils m'ont vu vieux, en fait. Très vite, ils m'ont vu comme un mec du circuit de l'ATP. Et du coup, quand je perdais des matchs, bah, ils avaient oublié un peu que j'avais 15-16 ans, quoi.
Et aujourd'hui, maintenant que tu as passé justement toute cette étape, tu représentes la relève, la next gen, donc cette nouvelle génération, avec on va parler des Français avec Hugo Humbert, Lucas Pouille aussi, même s'il est un peu plus âgé. Est-ce que là, justement, tu sens l'attente autour de cette relève?
Pas vraiment.
Ou tu n'y penses pas, tu traces ta route en faisant un petit peu abstraction de tout ça.
Bah, déjà, je suis plutôt dans ma bulle, mais dans l'autre sens, je ne le sens pas. Même de la part des gens qui me parlent ou qui m'envoient des messages, il y a beaucoup, beaucoup de mots sympas, d'encouragement que je reçois sur Instagram, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas d'attente, de choses. Non, je trouve qu'il y a moins, c'est moins malsain que quand j'étais plus jeune, justement. C'est plus sain, des encouragements, on est avec toi, du soutien, des choses comme ça. J'ai l'impression que les personnes se rendent un peu plus compte que c'est pas si facile, malgré tout, même si la vie de tennisman est super belle, mais c'est pas si facile comme sport, c'est dur. Et je pense que les gens, petit à petit, alors je sais pas à quoi c'est dû, mais se rendent compte et respectent de plus en plus les joueurs pour leur travail. Et c'est vrai que c'est. Moi, je le vis assez bien maintenant.
D'accord.
C'était plus
Donc,
dur avant.
et de la part des médias, parfois c'est jamais évident. Enfin, tu vas de lire des propos, enfin, de la part de journalistes. Je sais que voilà, tu fais ton match, tu fais quand même ce que tu peux, tu passes à côté. Est-ce que tu parfois les trouves lucides ou ça peut t'agacer quand même de lire certaines choses?
Bah, c'est dur, c'est vrai que c'est dur parce que en fait au final tu t'entraînes si je prends l'exemple d'un tournoi je sais pas l'Open d'Australie tu t'entraînes, tu fais toute la pré-saison 2 mois, tu t'entraînes, c'est super dur, il fait froid à Paris, tu travailles dans ton coin, tu fais des bonnes séances d'entraînement, tu progresses, tout ça, tu arrives en match, deuxième match de l'année, en plus j'avais bien joué la semaine d'avant, tu arrives en Australie, tu te fais ramasser, je me suis fait exploser contre Cilic, enfin il a fait un super bon match, j'étais clairement en dessous. Et ça arrive. Et là, tu te fais défoncer, quoi. En mode, il a fait finale la semaine dernière, je sais pas quoi, tu peux plus. Comment il a perdu, il n'arrive pas à enchaîner. Enfin, et très vite, je trouve qu'on pointe du doigt les mauvaises choses. Alors, je parle pas sur tous les journalistes, hein, mais très vite dans la presse, on peut. Les titres, en fait, les titres, de temps en temps, ils font mal. Parce que c'est pour faire vendre, et sauf qu'ils oublient que derrière, tu as un humain, tu as quelqu'un qui a des émotions, des sentiments. Et que, bah, moi, je peux le lire aussi le titre. Que si je vois Moutet s'est fait découper, ça fait pas plaisir. On n'est pas des. Enfin, on parle de vraies personnes, quoi. C'est des personnes qui font des titres sur d'autres vraies personnes.
Ouais, il y a des émotions, on n'est pas des machines. Et en effet, parfois, mais après c'est parfois aussi factuel et on a tendance à prendre les choses avec émotion, alors que bon bah on raconte aussi ce qui s'est passé. On a pris une
Non, mais c'est
fessée, on a pris
sûr.
une fessée, c'est aussi la
Non.
vie, et ça arrive, il faut retourner au combat, au travail et rebondir, tu vois.
Non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais en fait, ce qui est dur, c'est ça, c'est de que bah, déjà que la victoire soit publique et que la défaite soit aussi, enfin que tout soit public. Ça, c'est le plus dur. C'est que tu as l'impression de d'être observé tout le temps. C'est-à-dire que les moindres faits et gestes sont commentés. Chacun donne son avis dessus. Moi, contre Pella, il y avait eu une histoire où on s'était pris la tête un peu sur le terrain. Et le lendemain, moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. J'avais une demi le lendemain. J'ai pas dormi parce que même si je regarde pas. À un moment, quand tu as Twitter, quand on t'identifie, tu le vois le truc, tu peux pas passer à côté. Et tous la presse relayée,
Donc
l'article.
ça te touche quand même.
Oui, ça me touche, moi.
D'accord.
C'est pour ça que je regarde pas, mais de temps en temps, c'est pour ça que j'avais enlevé Twitter pendant un certain moment parce que ça me faisait trop de mal. Et que là, quand il m'avait mis ça, enfin, en fait, ce qui me frustrait, c'est qu'il n'y avait que des personnes qui donnaient leur avis sur ce qui s'est passé pendant le match sans avoir vu le match. Mmh. Et c'est ça qui est frustrant. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va très vite et ça donne la parole à tout le monde, en fait. Tout le monde peut donner son avis sur ma personne, sur quelque chose que j'ai fait, alors que moi, j'ai besoin d'avis de personne.
Ouais, ça c'est, le fait, en fait. C'est le fait d'être certes joueur de tennis, c'est un personnage public, mais c'est aussi à l'heure des réseaux sociaux, tu peux pas y échapper.
Comment tu le vivais, toi, comment tu le vivais, toi, le truc?
Écoute, avec pas mal de distance, honnêtement, moi je sais pas, je suis assez pragmatique, c'est à dire que pour moi les choses sont assez simples. Et je crois avoir globalement assez accepté, mais moi il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'est quand même très différent. Donc c'était globalement quelques médias, et après quelques lectures, bah, en effet, je pouvais être d'accord. Quand tu prends 3 et 2, bah, tu as pris 3 et 2, quoi, tu vois, non, après c'est le reste et la manière dont peut être relayée cette information, mais plus je pense sur les réseaux sociaux que par les médias qui sont spécialisés, tu vois. Moi, en tout cas, je leur en ai jamais voulu. Après, c'est toi et ton ego aussi.
Non, mais après, ce qui est frustrant, je trouve, au-delà des paroles qui sont dites, c'est que ce soit relayé aussi rapidement, aussi facilement sur des personnes. Moi, il y avait des trucs, je sais pas, de la presse française qui parlaient du match alors qu'ils dormaient, quoi, les mecs.
Oui.
Et en fait, les gens derrière, même les commentaires des internautes, ils se fient au titre, mouté, arrogant, je sais pas quoi. Et derrière, mais de toute façon, je sais pas quoi. Et derrière, ils donnent leur avis sur un titre, en fait.
Mais ça, tu es obligé d'apprendre à vivre avec.
Non, mais moi, j'ai appris à vivre avec.
C'est terrible, hein, mais.
Ça me laisse pas. Je trouve ça dingue parce que personne n'est jamais venu me voir en face en me disant t'es une merde. Enfin, sauf mes entraîneurs, mais, mais personne est venu me voir en me disant putain, tu sais pas faire un coup droit, ton revers, il est moche, t'es trop petit. Personne m'a jamais dit ça en vrai. Et à la limite, je préférais qu'on vienne me voir et qu'on me dise ça. À la limite, ça serait plus courageux déjà, et en plus, ça serait.
Ouais.
Enfin, ça me toucherait peut-être plus, ça aurait plus de sens.
Écoute, le courage de nos jours, je suis pas sûr. Je parlais justement de différentes générations. Toi, tu es un peu la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a un passage de témoin? Est-ce que tu échanges avec alors les plus anciens, donc les nouveaux mousquetaires, hein, qu'on appelle les plus anciens, mais c'est cette étiquette qu'on leur a collée. Donc Gaël, Gilles, Joe ou Richard, est-ce que tu t'entraînes avec eux de temps en temps? Est-ce que tu échanges avec eux? Est-ce qu'il y a une sorte de transmission qui se fait?
Bah, transmission, je sais pas, parce que enfin dans ma tête, moi pour moi ils sont toujours là. Pour moi.
Ah, bien sûr, mais ouais. tu joues avec eux? Est-ce que vous échangez? Enfin, est-ce que ils prennent des nouvelles?
Franchement, ils sont hyper sympas. Alors je peux parler que de l'expérience que j'ai avec eux. À travers mes yeux, c'est qu'ils sont vraiment tous sympas avec moi. Quand je tape avec eux, même dans la salle de physique, ils te font pas ressentir justement une jalousie ou quoi que ce soit, ou un truc de je suis mieux classé que toi, j'ai plus d'expérience, tout ça. Il y a pas de ça du tout, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de bataille d'ego dans les relations. Je pourrais jamais dire que c'est des proches ou c'est des amis parce que moi, j'oublie pas que j'ai regardé la télé quand j'étais petit, et qu'aujourd'hui je les vois passer à côté de moi, mais que voilà, moi je me demandais quand j'étais petit où est-ce qu'ils s'entraînaient, qu'est-ce qu'ils faisaient.
Quand tu dis ça, il y a une forme d'admiration ou c'est
Bah ouais, moi Gaël, je faisais des tournois de ping-pong avec mon père, des tableaux, des trucs, et je mettais Gaël mon fils dans le truc, quoi.
D'accord.
Je jouais, j'étais Gaël mon fils, tu vois.
Tu lui as dit ça? Tu lui as déjà dit?
Non, je l'ai pas dit, je l'ai dit à un mec, comment il s'appelle, Hernandez, je sais pas si tu connais. Je me souviens, je le mettais. Il y a des mecs comme ça qui me marquaient quand j'étais petit et je les mettais dans mes tableaux. Et il est coach maintenant.
D'accord.
Et je l'ai dit à lui, je l'ai jamais dit à un Français. Mais Richard, Joe, il y avait tout le monde, je les mettais tous dans mes tableaux et j'étais eux en fait, le temps d'un match avec mon père. Donc j'oublie pas ça que c'est un peu. C'était presque des personnages de fiction pour moi à la base.
Oui, tu veux dire par là qu'ils t'ont aussi donné un peu envie finalement d'aller aussi dans cette voie?
Ouais, ils m'ont donné carrément envie de jouer, de prendre leur place. Quand Joe il fait comme ça sur le terrain, que tout le monde l'acclame, il est en finale de l'Australian. Quand Gaël, il fait des courses, des trucs de fou. Enfin, ils m'ont donné envie de jouer et ils m'ont donné envie de regarder le tennis aussi. C'est eux qui m'ont fait aimer ce sport. Donc voilà. Puis c'était presque un peu surhumain pour moi au début. Je regardais ça un peu comme un film. Et aujourd'hui, taper avec eux, de temps en temps leur prendre un set à l'entraînement ou des trucs comme ça, pour moi, avec mon ego et en tant que joueur de tennis, je me dis c'est normal. Je suis tout à fait tu vois, je suis tout à fait apte de rivaliser avec eux. Et de temps en temps, je me mets de côté. Je me dis, putain, attends quand même, mets-toi 10 ans en arrière. Et là, tu as pris un set à son gars alors qu'il y a 10 ans, tu le regardais à la télé. Et c'est même pas genre, regarde comment tu as grandi, tu as évolué, tout ça. C'est même pas ça. C'est juste que je me dis, mais c'est la vie, elle est fabuleuse, quoi. Jamais je penserais, j'aurais pensé être sur le terrain avec son gars.
Alors, ouais. Comment tu procèdes, toi? C'est la suite là pour toi, tes axes de progrès, tes ambitions. Alors, enfin, voilà, je vais essayer de poser une seule question, mais tu te fixes des objectifs de classement, tu te fixes des objectifs de progrès uniquement. Tu es dans quel état d'esprit?
Bah, moi, j'aime bien me fixer des objectifs de progrès. J'aime bien sentir que je progresse, de voir évoluer mon jeu, même physiquement, de me voir évoluer. Moi, c'est vraiment là-dedans que je suis. Après, bien sûr, gagner des matchs. Forcément, mais ça, c'est dur de se mettre un objectif de gain de match ou de résultat parce qu'on ne sait pas vraiment, comment. Bah déjà, il y a un adversaire en face, donc on ne sait pas si on sera meilleur que lui. Mais j'aime bien me concentrer là-dessus, sur qu'est-ce que je fais tous les jours, est-ce que je le fais bien, est-ce que je m'améliore, est-ce que je le fais mieux qu'avant, dans certains domaines où j'ai besoin de m'améliorer.
Et ce que je fais, c'est quoi aujourd'hui les domaines dans lesquels vraiment tu as le sentiment que tu peux progresser?
Bah en fait, moi, ça évolue tout le temps parce que je suis hyper perfectionniste et que j'ai envie d'évoluer tout le temps, de progresser tout le temps. Donc dans ma chambre, de temps en temps, je me fixe des objectifs, j'irai courir pendant 15 jours tous les matins, des trucs comme ça pour travailler. Enfin, j'aime bien m'améliorer, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. De me sentir plus mature, plus adulte, plus concerné par mon projet. J'ai toujours cette peur de ne pas être assez concerné par mon projet. Et du coup, j'en fais toujours plus, en fait. C'est jamais assez. Parce que j'ai peur justement de ne pas être crédible, même envers mon équipe, de ne pas leur donner assez, de ne pas leur montrer assez. Donc c'est toujours cette recherche de faire plus, en fait. Alors, faire plus où? C'est justement la question à chaque fois. Où est-ce que je fais pas assez, où je peux faire plus? C'est pour ça que ça évolue constamment. Mais ouais, c'est ça. Moi en fait, c'est ce qui me fait vivre tous les jours.
Ce qui te fait avancer.
Comment je peux être plus pro, en fait? C'est
d'accord.
Ça.
Être rigoureux, discipliné,
voilà,
sérieux, parfait. Corentin, je vais te remercier vivement.
Merci
pour ta sincérité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, si vous aimez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à noter, à mettre des étoiles, à commenter sur les plateformes de podcast. Corentin, mille fois merci une nouvelle fois. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.